Chapitre 18. La fin d'une race. Il y avait une rude partie ce matin-là au cercle du jeu de paume. Tout autour de la lice immense, sur le terrain battu, piétinait comme une arène, un grand filet enveloppé de ses mailles serrées, les évolutions de 6 joueurs, en veston blanc, chaussons de salle d'armes, bondissant, hurlant, agitant leur lot de raquettes. Ce jour d'hippodrome tombé des hautes vitres, ce filet tendu, les cris rauques, les voltes, les écarts de ses casaques blanches, l'impassible correction des garçons de salle, tous anglais, arpentant à pas compter la galerie du pourtour, on se serait cru dans quelque manège pendant la répétition des gymnastes et des clowns. Parmi ces clowns, Monseigneur le prince d'Axel, à qui on avait ordonné le noble exercice de la paume comme hygiénique à son coma, pouvait compter pour un des plus bruyants. Arrivé la veille de Nice, où il venait de passer un mois au pied de Colette, cette partie était sa rentrée dans la vie parisienne, et il envoyait la balle avec des « ans » de garçons bouchés, des détentes de bras à faire l'admiration d'un abattoir, quand on venait l'avertir au plus beau du jeu qu'il y avait là quelqu'un pour lui. « Zut !» répondit le présomptif, sans même tourner la tête. Le domestique insista, dit un nom à l'oreille de Monseigneur, qui se calma un peu étonné. « C'est bon, priez d'attendre, j'y vais sitôt le coup fini. » Rentré dans une de ces cabines de bain froid qui font le tour de la galerie, meublée de bambou, coquettement tendue de nattes japonaises, il trouva son ami Rigolo, accroupi sur un divan, la tête basse. « Oh, mon prince, quelle aventure !» fit l'ex-roi d'Illyrie en levant un visage bouleversé. Il s'arrêta à la vue du garçon chargé de serviettes, gants de laine et de crin pour éponger, et trier Monseigneur, suant, fumant comme un Mecklembourg qui vient de monter une côte. L'opération finie, Christian continua, les lèvres pâles, grelottantes. « Voici ce qui m'arrive. Vous avez entendu parler, là-bas, de l'affaire du familier ?» L'altesse tourna vers lui son regard morne. « Pincé ?» Le roi affirma d'un signe en détournant ses jolis yeux indécis. Puis, après un silence, « Vous voyez la scène, la police au milieu de la nuit, la fillette qui pleure, se roule, déchire les agents, s'accroche à mes genoux. Monseigneur, Monseigneur, sauvez-moi !»« Je veux la faire taire. Trop tard, quand j'essaie de donner un nom quelconque, le commissaire se met à rire. C'est inutile, mes hommes vous ont reconnu. Vous êtes le prince d'Axel. » « Elle est bien bonne !» grogna le prince dans sa cuvette. « Et alors ?»« Ma foi, mon cher, j'ai été si penaud, si pris de court, d'autres motifs aussi que je vous dirai. Bref, j'ai laissé croire à cet homme que j'étais vous, bien convaincu d'ailleurs que l'affaire n'aurait pas de suite. Mais point, voilà qu'on en reparle, et comme vous pourrez être appelé chez le juge d'instruction, je viens vous supplier de passer en correctionnel à votre place. » « Oh, les choses n'iront pas jusque-là. Seulement, les journaux parleront, des noms seront prononcés. » Et, dans ce moment, avec ce qui se passe en Illyrie, le mouvement royaliste, notre restauration prochaine, ce scandale serait du plus triste effet. Comme il avait l'air piteux, l'infortuné Rigolo, attendant la décision de son cousin d'Axel, qui ramenait silencieusement ses 3 cheveux jaunes devant la glace. Enfin, le prince royal se décida à parler. « Alors, vous croyez que les journaux ?» Et tout à coup, de sa voix de ventriloque, veule et endormie, « Chic, très chic, ça va faire enrager mon oncle !» Il était habillé, prit son stick, campa son chapeau sur l'oreille. « Allons déjeuner !» Bras dessus, bras dessous, par la terrasse des feuillants, ils rejoignirent le phaéton de Christian, attendant à la grille des Tuileries. Ils montèrent tous les deux engoncés dans leur fourrure, car il faisait une belle journée d'hiver d'une lumière rose et froide, et le svelte équipage partit comme le vent, emportant nos inséparables vers le café de Londres, Rigolo soulagé, tout épanoui, que de poule moins somnolent que d'habitude et moustillé par sa partie de paume et la pensée de cette frasque dont tout Paris allait le croire le héros. Comme il traversait la place Vendôme, à peu près déserte à 7 heures, une femme d'allure élégante et jeune s'arrêtait debout au bord du trottoir, une enfant par la main et regardant les numéros. L'altesse, qui du haut de son siège dévisageait tous les minois avec l'avidité d'un boulevardier à jeun depuis 3 semaines, l'aperçut, tressaillit. « Voyez donc, Christian, on dirait... » mais Christian n'entendit pas, occupé de surveiller sa bête très allumée, elle aussi, ce matin-là. Et lorsqu'ils se retournèrent sur l'étroite voiture pour regarder cette belle passante, elle et son enfant venaient d'entrer sous la voûte d'une de ces maisons voisines du ministère de la Justice. Elle marchait vite, le voile baissé, un peu gênée et hésitante, comme pour un premier rendez-vous. Mais si la toilette sombre est trop riche, l'allure mystérieuse pouvait faire douter un instant de cette femme, le nom qu'elle demanda au Suisse, l'accent de tristesse profonde dont fut prononcé ce nom des plus célèbres dans la science, éloignait forcément toute idée galante. Le docteur Bouchereau, au premier, porte en face. Si vous n'avez pas de numéro, c'est inutile de monter. Elle ne répondit pas, s'élança dans l'escalier, traînant l'enfant après elle, comme si elle avait peur qu'on ne les rappelât. Au premier, on lui dit la même chose. Si madame ne s'était pas fait inscrire la veille... « J'attendrai, » dit-elle. Le domestique, sans insister, leur fit traverser une première antichambre où des gens étaient assis sur des coffres à bois, une autre encombrée encore, puis ouvrit avec solennité la porte du grand salon qu'il referma sitôt la mère et l'enfant entrés, de l'air de dire « Vous avez voulu attendre, attendez !» C'était une vaste pièce, très haute d'étage, comme tous les premiers de la place Vendôme, somptueusement décorée, avec peintures au plafond, boiseries et panneaux. Là-dedans, s'espaçait et détonnait un meuble en velours grenat, provincial de forme, les rideaux et les portières pareils, mêlés avec des chaises, des poufs en tapisserie à la main. Le lustre Louis XVI au-dessus d'un guéridon empire, la pendule à sujet entre ces deux candélabres, l'absence de tout objet d'art, révélait le médecin modeste, travailleur, chez qui la vogue est arrivée à l'improviste et qui n'a fait aucun frais pour l'attendre ni la recevoir. Et quelle vogue, comme Paris seul peut la donner quand il s'en mêle, s'étendant à tous les mondes, du haut en bas de la société, débordant en province, à l'étranger, dans l'Europe entière, et cela depuis 10 ans, sans se ralentir, sans diminuer, avec l'approbation unanime des confrères, avouant que, pour cette fois, le succès est allé à un vrai savant, non au charlatanisme déguisé. Ce qui vaut à Bouchereau cette renommée, cette affluence extraordinaire, c'est moins sa poigne merveilleuse d'opérateur, ses admirables leçons d'anatomie, sa connaissance de l'être humain, que la lumière, la divination qui le guide, plus claire, plus solide que l'acier des outils, cet œil génial des grands penseurs et des poètes qui fait de la magie avec la science, voit au fond et au-delà. On le consulte comme la pythonisse, d'une foi aveugle, sans raisonnement. Quand il dit « ce n'est rien », les boîtes marchent et les moribonds s'en vont guéris. De là cette popularité, pressante, étouffante, tyrannique, qui ne laisse pas à l'homme le loisir de vivre, de respirer. Chef de service dans un grand hôpital, il fait chaque matin sa tournée très longue, très minutieuse, suivie d'une jeunesse attentive qui regarde le maître comme un dieu, l'escorte, lui tend ses outils, car Bouchereau n'a jamais de trousse, emprunte à quelqu'un près de lui l'instrument dont il a besoin et qu'il oublie régulièrement de restituer. En sortant, quelques visites. Puis il revient vite à son cabinet et souvent, sans se donner le temps de manger, commence ses consultations qui se prolongent très tard dans la soirée. Ce jour-là, quoiqu'il ne fût guère plus de midi, le salon était déjà plein de figures sombres, inquiètes, alignées tout autour sur des sièges ou groupées près du guéridon, penchées sur des livres, des journaux illustrés, se détournant à peine pour regarder ceux qui entraient, chacun préoccupé de soi-même, enfermé dans son mal, absorbé par l'anxiété de ce que proposera le devin. Sinistre, le silence de ces malades, aux traits creusés de plis douloureux, aux regards atones, allumés parfois d'un feu cruel. Les femmes encore gardaient une coquetterie, quelques-unes un masque hautain sur la souffrance, tandis que les hommes, arrachés à leur travail, à l'activité physique de la vie, semblaient plus frappés, plus à l'abandon. Parmi ces détresses égoïstes, la mère et son petit compagnon formaient un groupe touchant. Lui, si frêle, si pâle, avec cette petite figure éteinte de traits et de teint, où il n'y avait qu'un œil de vivant, elle, immobile, comme figée dans une effroyable inquiétude. Un moment, s'ennuyant d'attendre, l'enfant se leva pour aller chercher des images sur le guéridon, gauche, timide, en infirme. Son bras, en s'avançant, heurta un malade et il reçut un coup d'œil si hargneux, si froncé, qu'il revint à sa place les mains vides et y resta sans mouvement, la tête de côté, avec cette attitude inquiète d'oiseau branché qu'ont les jeunes aveugles. Vraie suspension de vie que ces séances à la porte du grand médecin, un hypnotisme rompu seulement par quelques soupirs, une toux, une jupe qu'on ramène, une plainte étouffée ou le carillon de la sonnette annonçant à chaque instant un nouveau malade. Parfois, celui-ci, en ouvrant la porte et voyant tout rempli, la referme bien vite avec effroi, puis, après un colloque, un court débat, rentre enfin résigné à attendre. C'est que, chez Bouchereau, les tours de faveur n'existent pas. Il ne fait d'exception que pour ceux de ses confrères de Paris ou de la province qui lui amènent un client. Ceux-là seuls ont le droit de faire passer leur carte, d'être introduits avant leur tour. Ils se distinguent par un air familier, autoritaire, marchent à pas nerveux dans le salon, tirent leur montre, s'étonnent de voir qu'il est midi passé et que rien ne bouge encore dans le cabinet de consultation. Du monde, encore du monde, et de toutes sortes, depuis le lourd banquier obèse qui, dès le matin, fait garder sa place sur deux chaises par un domestique, jusqu'au petit employé qui s'est dit « ça coûtera ce que ça coûtera, consultons Bouchereau ». Toutes les toilettes, toutes les tenues, des chapeaux de visite et des bonnets de linge, de minces petites robes noires à côté de brillants satins, mais l'égalité reste dans les yeux rougis de larmes, les fronts inquiets, les transes et les tristesses qui hantent un salon de grands consultants à Paris. Parmi les derniers venus, un paysan, blond, tanné, large de face et de carrure, accompagne un petit être rachitique qui s'appuie à lui d'un côté et de l'autre sur une béquille. Le père prend des précautions attendrissantes, incline sous sa blouse neuve son dos voûté par le labour, délie ses gros doigts pour asseoir l'enfant. « Es-tu bien ? Cale-toi, attends que je te mette ce coussin dessous. » Il parle à haute voix, sans se gêner, dérange tout le monde pour avoir des chaises, un tabouret. L'enfant, intimidé, affiné par la souffrance, reste silencieux, le corps déjeté, tenant ses béquilles entre ses jambes. Enfin installé, le paysan se met à rire, les larmes aux yeux. « Hein ? Nous y sommes. C'est un fameux, va, il te guérira bien. » Puis il promène un sourire sur toute l'assemblée, un sourire qui se heurte à la dure froideur des visages. Seule la dame en noir, accompagnée aussi d'un enfant, le regarde avec bonté. Et quoiqu'elle ait l'air un peu fière, il lui parle, lui raconte son histoire, qu'il s'appelle Rézou, maraîcher à Valenton, que sa femme est presque toujours malade et que, malheureusement, leurs enfants tiennent plus d'elle que de lui, si vaillant, si fort. Les trois aînés sont morts d'une maladie qu'ils avaient dans les os. Le dernier faisait mine de bien s'élever, mais depuis quelques mois, ça le tenait dans la hanche comme les autres. Alors on a jeté un matelas sur les bancs de la carriole et ils sont venus voir Bouchereau. Il dit tout cela d'un ton posé, avec le lambinage des gens de campagne, et pendant que sa voisine l'écoute attendrie, les deux petits infirmes s'examinent curieusement, rapprochés par la maladie qui leur donne à tous deux, aux petits en blouse et cachenés de laine, comme à l'enfant couvert de fourrure fine, une ressemblance mélancolique. Mais un frisson court dans la salle, du rouge monte au pâleur, toutes les têtes tournées vers une haute porte, derrière laquelle s'entend un bruit de pas, de sièges remués. Il est là, il vient d'arriver. Les pas se rapprochent. Dans l'entrebâillure de la porte ouverte brusquement, paraît un homme de taille moyenne, trapu, carré d'épaules, le front dénudé, les traits durs. D'un regard, qui se croise avec tant d'autres regards anxieux, il a fait le tour du salon, scruté ses douleurs anciennes ou récentes. Quelqu'un passe, le battant se referme. « Il ne doit pas être commode, » dit Rézou à demi-voix, et, pour se rassurer, il regarde tout ce monde qui passera avant lui à la consultation. Une vraie foule et de longues heures d'attente, marquées par le timbre traînard, retentissant, de la vieille pendule provinciale, surmontée d'une polymnie et les rares apparitions du docteur. À chaque fois, une place est gagnée. Il y a un mouvement, un peu de vie dans le salon, puis tout redevient morne et immobile. Depuis qu'elle est entrée, la mère n'a pas dit un mot, pas levé son voile, et il se dégage de son silence, peut-être de sa mentale prière, quelque chose de si imposant que le paysan n'ose plus lui adresser la parole, reste muet aussi, pousse de gros soupirs. À un moment, on le voit tirer de sa poche, d'une foule de poches, une petite bouteille, un gobelet, un biscuit dans du papier qu'il développe lentement, précieusement, pour faire une trompette à son garçon. L'enfant mouille ses lèvres, puis repousse le verre et le biscuit. « Non, non, je n'ai pas faim !» Et devant cette pauvre figure tirée, si lasse, Rézou pense à ses trois aînés qui n'avaient jamais faim non plus. Ses yeux se gonflent, ses joues tremblent à cette idée, et tout à coup, « Bouge pas, mamie, je vais voir si la carriole est en bas !» Voilà bien des fois qu'il descend pour s'assurer que la carriole stationne toujours au ras du trottoir sur la place. Et quand il remonte, souriant, épanoui, il s'imagine qu'on ne voit pas ses yeux rougis, ses joues violettes à force d'être essuyées, tamponnées à gros coups de poing pour entrer des larmes. Les heures passent, lentes et tristes. Dans le salon qui s'assombrit, les figures paraissent plus pâles, se tournent suppliantes vers l'impassible Bouchereau, faisant son apparition régulière. L'homme de Valenton se désole en songeant qu'ils rentreront en pleine nuit, que sa femme sera inquiète, que le petit aura froid. Son chagrin est si vif, s'exprime tout haut, avec une naïveté si touchante, que lorsqu'après cinq mortelles heures, la mère et son enfant voient venir leur tour de passer, ils cèdent leur place au brave Rézou. « Oh, merci, madame !» Son effusion n'a pas le temps d'être gênante, car la porte vient de s'ouvrir. Vite, il prend son fils, le soulève, lui donne sa béquille, si troublé, si ému, qu'il ne voit pas ce que la dame glisse dans la main du pauvre estropié. « Pour vous ! Pour vous !» Oh, que la mère et l'enfant la trouvent longue, cette dernière attente, augmentée de la nuit qui vient, de l'appréhension qui les glace. Enfin, leur tour arrive. Ils entrent dans un cabinet très vaste, tout en longueur, éclairé par une large et haute fenêtre qui ouvre sur la place et garde encore du jour, malgré l'heure avancée. La table de Bouchereau est là-devant, très simple, un bureau de médecin de campagne ou de receveur de l'enregistrement. Il s'y assied, le dos tourné à la lumière qui frappe les nouveaux venus. Cette femme, dont le voile relevé, montre un visage énergique et jeune, au teint éclatant, aux yeux fatigués de veille douloureuse, le petit baissant la tête comme si le jour en face le blessait. « Qu'est-ce qu'il a ?» dit Bouchereau, l'attirant à lui avec un accent de bonté, un geste paternel, car sous la dureté de son visage se cache une sensibilité exquise que 40 ans de métier n'ont pas émoussée encore. La mère, avant de répondre, fait signe à l'enfant de s'éloigner, puis, d'une belle voix grave, à l'accent étranger, raconte que son fils a perdu l'œil droit l'an dernier par accident. Maintenant, des troubles surviennent au côté gauche, des brumes, des éblouissements, une altération sensible de la vue. Pour éviter la cécité complète, on conseille l'extraction de l'œil mort. Est-elle possible? L'enfant est-il en état de la supporter? Bouchereau écoute avec attention, penché au bord de son fauteuil, ses deux petits yeux vifs de tourangeau fixés sur cette bouche dédaigneuse, aux lèvres rouges, d'un sang pur, que le phare n'a jamais touché. Puis, quand la mère a fini, « L'énucléation qu'on vous conseille, madame, se fait journellement et sans aucun danger, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles. » Une fois, une seule, en 20 ans, j'ai eu dans mon service à la Riboisière un pauvre diable qui n'a pas pu le supporter. Il est vrai que c'était un vieillard, un triste ramasseur de chiffons, alcoolisé, mal nourri. Ici, le cas n'est pas le même. Votre fils n'a pas l'air fort, mais il vient d'une belle et solide maman qui lui a mis dans les veines. Nous allons voir ça, du reste. Il appelle l'enfant, le prend entre ses jambes et, pour le distraire, l'occupé pendant son examen, lui demande avec un bon sourire « Comment t'appelles-tu »«
Léopold, monsieur. »«
Léopold qui ?» Le petit regarde sa mère sans répondre. « Eh bien, Léopold, il faut quitter ta veste, ton gilet, que j'inspecte, que j'écoute partout. » L'enfant se défait longuement, maladroitement, aidé de sa mère dont les mains tremblent et du bon père Bouchereau, plus habile que d'eux. Oh, le pauvre petit corps grêle, rachitique, aux épaules rentrées vers l'étroite poitrine, comme des ailes d'oiseaux repliées avant le vol, et d'une chair si blême que le scapulaire, les médailles s'y détachent, dans le jour triste, ainsi que sur le plâtre d'un ex-voto. La mère baisse la tête, presque honteuse de son œuvre, tandis que le médecin ausculte, percute, s'interrompant pour faire quelques questions. « Le père est âgé, n'est-ce pas ?»«
Mais non, monsieur, 35 ans à peine. »«
Souvent malade ?»«
Non, presque jamais. » »«
C'est bien, rhabille-toi, mon petit homme. » Il s'enfonce dans son grand fauteuil, tout pensif, tandis que l'enfant, après avoir remis son velours bleu et ses fourrures, va reprendre sa place tout au fond sans qu'on le lui dise. Depuis un an, il est tellement habitué à ses mystères, à ses chuchotements autour de son mal, qu'il ne s'en inquiète même plus, n'essaie pas de comprendre, s'abandonne. Mais la mère, quelle angoisse, quel regard au médecin!
« Eh bien !»
Madame, des Bouchereaux tout bas, scandant chaque mot, « Votre enfant est en effet menacé de perdre la vue. Et pourtant, si c'était mon fils, je ne l'opérerais pas. » Sans bien m'expliquer encore cette petite nature, j'y constate d'étranges désordres, un ébranlement de tout l'être, surtout le sang le plus vicié, le plus épuisé, le plus pauvre.
« Du sang de roi !»
gronde Frédéric, brusquement levé avec un éclat de révolte. Elle vient de se rappeler de voir tout à coup dans son petit cercueil chargé de roses la pâle figure de son premier-né. Bouchereau, debout aussi, subitement éclairé par ces trois mots, reconnaît la reine d'Illyrie qu'il n'a jamais vue, puisqu'elle ne va nulle part, mais dont les portraits sont partout.
« Ah, madame, si j'avais su !»«
Ne vous excusez pas, dit Frédéric, déjà plus calme. Je suis venu ici pour entendre la vérité, cette vérité que nous n'avons jamais, nous autres, même en exil. Ah, monsieur Bouchereau, que les reines sont malheureuses! Dire qu'ils sont là tous à me persécuter pour que je fasse opérer mon enfant. Ils savent pourtant bien qu'il y va de sa vie. Mais la raison d'État! Dans un mois, 15 jours, peut-être plus tôt, les diètes d'Illyrie vont envoyer vers nous. On veut avoir un roi à leur montrer. Tel qu'il est là, passe encore, mais aveugle, personne n'en voudrait. Alors, au risque de le tuer, l'opération, règne ou meurt. Et j'allais me faire complice de ce crime. Pauvres petits haras, qu'importe qu'il règne, mon Dieu, qu'il vive !» 5 heures, le soir tombe. Dans la rue de Rivoli, encombrée par le retour du bois, l'heure des dîners, les voitures vont au pas, suivant la grille des Tuileries, qui semble, frappée par le couchant hâtif, s'étendre sur les passants en longue barre. Tout le côté de l'Arc de Triomphe est encore inondé d'une rouge lumière boréale, l'autre déjà d'un violet de deuil, épaissi d'ombre vers les bords. C'est par là que roule la lourde voiture aux armes d'Illyrie. Au tournant de la rue de Castiglione, la reine retrouve soudain le balcon de l'hôtel des Pyramides et les illusions de son arrivée à Paris, chantantes et planantes comme la musique des cuivres qui sonnait ce jour-là dans les masses de feuillage. Que de déceptions depuis, que de combats! Maintenant, c'est fini, fini. La race est éteinte. Un froid de mort lui tombe aux épaules, tandis que le landau avance vers l'ombre, toujours vers l'ombre. Aussi ne voit-elle pas le regard tendre, craintif, implorant, que l'enfant tourne de son côté.
« Maman, si je ne suis plus roi, est-ce que vous m'aimerez tout de même ?»«
Oh, mon chéri !» Elle serre passionnément la petite main tendue vers les siennes. « Allons, le sacrifice est fait. » Réchauffé, réconforté par cette étreinte, Frédéric n'est plus que mère, rien que mère, et quand les Tuileries, dorées sur leurs cendres solides d'un rayon au déclin, se dressent tout à coup devant elle pour lui rappeler le passé, elle les regarde sans émotion, sans mémoire, croyant voir quelques ruines anciennes, d'Assyrie ou d'Égypte, témoins de mœurs et de peuples disparus, une grande vieille chose.